Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue à la 97e émission du Guide de l'auto avec Germain Goyer. Salut monsieur.
Bonjour Antoine, félicitations de m'endurer encore.
Quand même, hein, quand même. On va parler de pas mal de voitures coréennes aujourd'hui parce qu'on a fait l'essai de multiples modèles. Mais commençons par un produit d'intérêt. Volkswagen ID.4, on connaît maintenant son autonomie. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça arrive aussi?
Ben, c'est un peu plus flou pour ce qui est de son arrivée. Pour ceux qui s'intéressent particulièrement au modèle, le constructeur allemand a créé des groupes Facebook, en fait, pour les plus curieux et les, entre guillemets, les early adopters de ce modèle-là.
Bon, pour situer les gens, le ID.4, c'est peut-être l'équivalent d'un modèle Y chez Tesla.
Ouais, absolument. Donc, oui, on a eu la Volkswagen e-Golf, mais ça va être un premier véhicule électrique sérieux. Et donc, et on a vu des premiers exemplaires arriver dans la région de Toronto, des véhicules qui sont ici pour faire, pour faire des tests. C'est pas des véhicules qui vont être... c'est pas des véhicules commercialisables.
Ouais, ouais.
Mais il y en a quelques exemplaires qui sont débarqués au bureau chef à Toronto. Mais cette semaine, on a su ce que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire l'autonomie.
Passe pas celle de Tesla, mais qui est quand même très raisonnable.
Qui est très, très, très raisonnable. Donc, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis a divulgué ce chiffre qui est de 402 km. Donc, juste au-dessus du seuil psychologique de 400 km.
Donc, c'est considérablement plus intéressant, par exemple, qu'un Volvo XC40 Recharge.
Oui,
qui 335 km, qui est un de ses rivaux, là.
Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un certain nombre de consommateurs qui font fausse route et qui s'imaginent que ça va être un véhicule vraiment pas cher, l'ID.4. Peut-être qu'il y aura des versions plus abordables, mais dans le cas d'une version à 402 km, il va falloir s'attendre à payer un prix qu'on ne connaît pas encore.
La stratégie qui serait intéressante, par exemple, c'est qu'on puisse le vendre à un prix assez intéressant pour que le véhicule soit éligible aux crédits gouvernementaux en vigueur actuellement. Mm-hmm. Donc, au moins sous la barre des 60 000 $ pour que on puisse appliquer le 8 000 $ du Québec. Un peu comme c'est le cas avec la Ford Mustang Mach-E qui va arriver d'ici la fin de l'année. Mais certaines des versions seront disponibles à moins de 60 000.
Par contre, à lire les échanges entre les internautes, j'avais l'impression que certains s'attendent à un véhicule dans les prix d'un Hyundai Kona électrique, par exemple. Et là, je pense qu'on ne sera pas là du tout.
On ne sera pas là. Quoi qu'un Kona, déjà là, c'est pas ce qu'il y a de plus accessible là, à 50
000 et plus. Non, effectivement.
Alors, à suivre. Bon, autre nouvelle du côté de Volkswagen, comme quoi les choses changent beaucoup chez ce constructeur allemand.
Oui, on a annoncé un peu plus tôt la fin de la Golf, la fin de la commercialisation de la Golf en Amérique du Nord. Et là, on nous a dit que la durée de vie de la Passat achevait. Donc, on va cesser sa fabrication de la Passat nord-américaine. Hein. C'est bien clair.
Pas celle qui est vendue en Europe.
Parce qu'en Europe, sa vie va continuer. Donc, en 2023, on va cesser la fabrication de la Passat à l'usine de Chattanooga, au Tennessee. Donc, on va y construire quoi?
Des Atlas et des Atlas Sport Cross.
Voilà.
Crossport, pardon.
Mais
si je m'appelais Volkswagen Jetta, je commencerais à avoir la chienne.
Les tours se resserrent.
Ouais,
là.
C'est ça.
Il reste de moins en moins de modèles, finalement, traditionnels de la marque.
Il n'y en a plus, en fait. Il reste la Jetta, mais qui n'est plus un modèle traditionnel parce que c'est rendu une voiture américaine.
Oui.
On aura la
GTI.
GTI Golf R seulement, mais la Golf régulière n'y sera plus, la Wagon non plus. Passat, ça disparaît.
Ouais.
Et puis,
La Passat, en même temps, on l'a abandonnée. On n'a fait aucune promotion chez Volkswagen. On ne la met pas de l'avant du tout. Elle est moins intéressante.
Ni de l'arrière.
On ne la met pas de l'avant, ni de l'arrière,
non,
ni de côté, ni de près, ni de loin. Et, Et ben, elle est moins intéressante que jamais, finalement, là, parce que c'est ni
d'ailleurs,
plus...
je n'ai vu aucune Passat 2020 sur la route depuis son arrivée sur le marché. Et c'est officiellement la moins vendue des berlines intermédiaires en 2020.
Mais là, on nous a dit qu'on allait cesser de la fabriquer en 2023.
C'est loin.
C'est très loin.
Ouais, moi aussi, je trouvais que c'est... Mais il faut croire que sur le marché américain...
Oui, peut-être, oui.
J'ai peut-être même l'impression qu'on pourrait l'abandonner au Canada avant les États-Unis, parce que sur le marché américain, c'est encore une voiture qui se vend un peu. Oui. Mais chez nous...
Et qui doit être rentable, justement, parce qu'elle est produite sur place. Mais ici...
Mais chez nous, les concessionnaires n'en commandent même pas, là.
Non, c'est
à ce point-là. Et il faut dire que la Passat, il y a quoi, 5-6 ans, c'est une voiture à volume, c'est une voiture... Ouais. Le marché a changé rapidement.
Au tournant de la génération 2011, là, si je me trompe...
Oui, c'est ça, 2012.
Là, tout s'est transformé.
Tout s'est transformé, mais les premières années, on en vendait quand même.
Oui, puis on avait des... Bon, c'était l'époque où les diesels étaient encore, encore populaires, mais bon, tout ça est très, très, très loin derrière nous.
Bon, on va parler de Polestar, autre voiture électrique, parce que là, c'est officiel. Première boutique qui va ouvrir ses portes le 6 décembre prochain.
Oui, effectivement. Et ce qu'on nous avait dit initialement, c'est qu'on s'installerait au centre-ville de Montréal, sur la rue René-Lévesque, donc en plein cœur du quartier des affaires.
Ouais.
Mais en raison de délai, on va s'installer au Carrefour Laval, donc dans un grand centre commercial. Et on va avoir littéralement une boutique sur place où on va pouvoir voir le véhicule. C'est le but, donc la Polestar 2.
Mm-hmm.
Et discuter avec des représentants de la marque. On avait peut-être spéculé, toi et moi, il y a quelques semaines, et on trouvait l'idée de s'installer dans un centre commercial peut-être un peu questionnable en raison de la proximité des gens et, la ventilation dans un centre d'achat. On se disait, toi et moi, que c'était peut-être pas l'endroit où on voulait se retrouver, mais pour être passé dans les derniers jours devant, justement, le Carrefour Laval, les Galeries d'Anjou, la Place Versailles et compagnie, je te confirme qu'il y a beaucoup d'affluence, les stationnements sont pleins. Donc,
on débarque en plein magasinage du temps des fêtes.
Effectivement.
Ça peut ne pas être méchant, mais c'est une solution temporaire, il faut le dire, parce que... Polestar, je m'en ai dit Volvo, Polestar va installer sur René-Lévesque.
Oui, on n'a pas changé les plans, c'est juste des délais. Là.
C'est juste des délais. Et à Toronto, on ouvre actuellement le premier magasin Polestar qui a pignon sur rue, bien établi. C'est d'ailleurs un des premiers en Amérique du Nord. Alors, sinon, le premier. Alors, c'est bien intéressant.
Le propriétaire de la concession de Toronto sera le même que celui à Montréal.
Bon. Autre point intéressant du côté de chez Polestar, il faut savoir qu'il y a eu des délais de livraison des voitures Polestar qui sont déjà livrées en partie aux États-Unis. Mais chez nous, au Canada, grâce à nos chers amis de chez Transport Canada...
Est-ce que tu entends le cliquetis de mon crayon?
Oui, c'est ça.
Oui, de mon...
Un peu de bureaucratie ici pour mentionner que l'étiquetage des voitures n'était pas conforme au désir de Transport Canada, qui veut que chaque produit construit en Chine doit être accompagné d'une étiquette mentionnant l'endroit où le véhicule a été fabriqué et le nom de l'usine qui la fabrique. Et
voulez-vous aussi le numéro d'assurance sociale de l'ouvrier qui l'a assemblé?
Oui, exactement. Okay. Et du concierge qui a nettoyé la voiture dans l'usine. Bref,
mais aux États-Unis, il n'y a pas de problème, là.
Non, aux États-Unis, les voitures roulent déjà, brûlent déjà, je m'en disais, de l'essence, brûlent déjà de l'électricité. Mais
est-ce qu'on brûle ça, de l'électricité? Hein? Est-ce qu'on brûle de l'électricité?
En tout cas, on l'exploite. Et c'est ça. Alors, voilà, c'est un problème avec lequel Polestar a dû composer ces dernières semaines. Et finalement, les voitures qui étaient figées au port à Halifax ont finalement pu être libérées et vont arriver très, très, très prochainement chez les consommateurs qui en ont commandé. J'ai vraiment hâte de voir si cette voiture-là va connaître du succès parce que bien que la comparaison avec le XC40 Recharge de Volvo soit évidente et que le marché du VUS soit supérieur, je pense que cette voiture-là, qui est polyvalente et qui est différente de tout ce qu'on a connu, mérite un bon succès. Moi, personnellement, j'ai un ami qui avait placé une commande et qui, malheureusement, a décidé de retirer sa commande lorsqu'il a appris quelle en était l'autonomie.
Ah oui!
Très, très, très... J'ai hâte de voir quelle va être la réaction des gens à ce niveau-là. On va parler des voitures de la semaine. On va commencer par parler de l'Angleterre, là.
Oui, tu as conduit le Land Rover Defender.
Ou de l'Inde, là, c'est selon.
Oui, c'est ou ça. Quelque part entre les deux. Là. Land Rover Defender que tu as conduit quelques jours la semaine dernière.
Un fantasme sur quatre roues. J'ai vraiment...
Ça a été un coup de cœur. Tous les deux.
Oui, c'est ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce camion-là. Un vrai troc.
Ouais.
Avec la qualité de fabrication, de finition qu'on connaît des Land Rover. Un camion solide, un camion qui est ancré au sol, qui est très agréable à conduire et surtout qui est doté d'une mécanique super intéressante. Donc, un V6 3 litres turbo accompagné d'une hybridation légère, ce qui donne au décollage un couple initial très intéressant parce que le véhicule est partiellement électrifié. Pas rechargeable, rien. Là, c'est une hybridation légère, mais ça permet d'avoir une puissance de 395 chevaux dans un camion qui défie les lois de la gravité, mais qui a une tenue de route surprenante. Alors, c'est une machine que j'ai adoré conduire. Et si je devais m'acheter un gros VUS demain matin avec un budget intéressant, je vous le dis tout de suite, ça serait un Land Rover Defender, nonobstant le risque que ça implique au niveau de la fiabilité.
Oui, parce que le risque est là, mais le véhicule est tellement cool et tellement beau à regarder, a du caractère comme aucun autre VUS de cette gamme.
Manque du caractère dans les véhicules.
Il
n'y
a aucune forme arrondie.
Il y a les pneus.
Oui. Et heureusement, mais à une époque où tous les véhicules tendent à avoir la forme d'un œuf, finalement, d'avoir là une belle brique bien carrée.
Tu sais, un Tesla Model Y.
Oui.
Un Nissan Murano.
Oui. C'est ça, des œufs, une douzaine d'œufs.
Oui,
mais là, on a on n'a pas la forme d'un œuf, on a la forme d'une boîte d'œufs.
Oui,
et ça, c'est franchement intéressant. Donc, il y a moyen d'opter pour une panoplie d'accessoires franchement intéressants aussi, qu'on peut choisir ou non. Là,
tout dépend. Le véhicule que j'ai conduit est équipé du groupe Explorateur. En quoi ça consiste? Donc, des bandes décoratives sur le
capot. Est-ce que ça vient avec un chapeau aussi à la Indiana Jones?
D'après moi, là, ils te le fourniraient. Si tu signes un chèque de 92 000, ils vont te donner le chapeau.
Okay.
Donc, ça vient avec des jantes exclusives, ça vient avec une galerie de toit qui est assez audacieuse et qui n'impacte pas tant que ça sur le bruit, honnêtement. Alors, une housse pour le pneu de secours juché sur le haillon arrière qui est un battant à ouverture latérale en passant.
Qui est pesant aussi.
Et qui est pesant. Et particulièrement, une espèce de boîte de rangement qu'on loge sur la glace de custode.
À quoi ça sert? C'est pas vraiment clair, mais c'est un bel accessoire.
C'est ça. C'est un accessoire pour le look. Fait qu'honnêtement, ça donne un résultat qui est super intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé.
On peut choisir un troisième siège aussi entre le conducteur et le passager.
Donc l'équivalent d'une banquette trois places à l'avant.
C'est ça. On peut configurer l'intérieur quasiment comme on veut. Franchement, on a été très créatifs avec ce véhicule.
On peut même mettre une banquette de troisième rangée, mais là, ça commence à c'est pas nécessairement conçu pour ça à la base. Là.
Non.
Bon, alors voilà. De ton côté, t'as conduit, comme moi, la Kia K5, remplaçante de l'Optima. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Kia K5 en version GT Line, donc moteur 1.6 turbo compressé et le système à quatre roues motrices, ce qui la rend franchement intéressante par rapport à sa cousine, la Sonata, qui, elle, n'est offerte qu'en version traction.
Ouais.
Donc, dans un monde où on a des Legacy, qui sont quatre roues motrices, évidemment, des Altima à quatre roues motrices, d'arriver à... La Camry, c'est vrai, qui débarque aussi avec le système à quatre roues motrices. Et d'arriver avec une autre berline intermédiaire qui l'offre aussi, ça permet de rester dans la course. Parce que, l'Optima qui nous a quittés, c'était pas un modèle non plus qui soulevait de grandes passions. Ça vaut pas grand-chose du secteur de l'occasion. Donc, il fallait lui donner un petit oomph, lui donner une petite saveur là pour la conserver sur le marché. Mais sinon, la conduite, franchement, c'est intéressant. On a eu de la neige un peu cette semaine.
Ouais.
Et pas le choix d'admettre que ça se débrouille assez bien. C'est rien de foudroyant comme motorisation, mais on est habitué à cette mécanique-là dans la famille Kia Hyundai. Et sinon, ce qui m'a beaucoup déplu, c'est le dégagement pour la tête. Je suis pas un géant.
L'assise trop haute.
Oui, voilà. Je suis pas un géant et à 5 pieds 11, ma tête frotte au plafond, là. Donc, ça passe vraiment, vraiment pas. Si vous êtes moindrement grand, ben vous allez devoir choisir un autre véhicule. Il n'y a, d'autres possibilités. J'ai incliné mon banc vers l'arrière, mais j'avais un peu l'impression d'être couché dans mon divan. Donc, c'est pas possible d'avoir une taille nord-américaine moyenne et de conduire une Kia K5.
Ça, c'est le gros défaut. Et en passant, pourquoi K5? Ben, c'est le nom qu'on utilise à l'international depuis déjà longtemps pour la Kia Optima. Et de changer le nom, c'est qu'on a simplement voulu uniformiser à l'échelle mondiale la nomenclature de l'auto. Puis en même temps, faire un pont entre l'Optima qui était devenu une voiture
très générique,
qui était pas, pour laquelle la clientèle avait très peu d'intérêt. Alors de changer le nom puis de faire une relance dans le secteur de la berline intermédiaire, alors que c'est un marché qui est en décroissance, ben c'est une belle option pour Kia.
Et toi en plus, tu as conduit la version performante là,
la vraie GT, la Kia K5 GT à moteur de 290 chevaux, 2.5 turbo, jumelle, boîte séquentielle, double embrayage, 290 chevaux.
Il y a un gros mais.
C'est une fusée, ça accélère, c'est une bombe de puissance vraiment impressionnant. Sauf que on perd le rouage intégral. Et ça, c'est complètement ridicule. Parce que s'il y a une voiture qui en aurait besoin, c'est celle-là. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que l'effet de couple sur les roues avant, ben en fait, c'est tu te bats avec le volant pour garder ça en ligne droite, à moins d'accélérer de façon très, très, très posée. Mais évidemment, quand tu as 290 chevaux, parfois, tu as envie de les exploiter. Et c'est carrément désagréable en accélération. Tu te bats littéralement avec le volant. Ça m'a rappelé l'effet de couple des premières Nissan Altima à moteur V6 en 2002, celui des Cadillac STS des années 90. Sérieusement, c'est un problème. Là.
C'est un trop gros mandat pour
les 40 000 piastres, ben, on ne la vendra pas. Ça prend le rouage intégral, sans quoi cette version-là n'a aucune chance de succès. Alors moi, je pense qu'on va vendre des versions EX, des versions GT Line, mais des versions GT, non.
Autre véhicule coréen, rapidement, que tu as conduit, Genesis G80.
Oui, G80. D'abord, je vais te parler vite de la G70 que je conduis aujourd'hui. Une voiture super intéressante sur le plan dynamique, très belle, mais qui a rapidement vieilli. Moi, je trouve que cette voiture-là, lorsque tu prends place à bord, le côté luxueux, le côté premium de la marque Genesis qu'on a connu avec la nouvelle G80 et le nouveau GV70, ben on l'a pas là-dedans, carrément pas. T'sais, c'est une présentation très...
C'est un véhicule première génération là, de la marque Genesis.
C'est une présentation beaucoup plus proche de Hyundai que de Genesis, de ce que nous sert Genesis actuellement. Aujourd'hui. Et on sait que la version 2022 va être retravaillée en ce sens-là et que ça va changer la donne. Je dis pas que la finition est pas belle, mais t'as pas l'impression d'une voiture premium autant que lorsque tu prends place à bord d'une G80 qui, elle, est vraiment impressionnante. Et j'ai pu conduire les deux versions de la G80, autant en 4 cylindres qu'en V6, parce que oui, on offre un 4 cylindres 2.5
et
litres.
Et ça se débrouille comment?
Écoute, c'est pas une fusée, OK? Alors, c'est le 4 cylindres 2.5 turbo que tu retrouves dans la Kia K5.
OK.
Mais un moteur, donc on dit 300 chevaux. Là, on a le rouage intégral. Preuve que c'est possible.
Oui.
En fait, c'est une configuration de propulsion, hein, cette voiture-là, donc il faut le savoir. C'est pas du tout c'est pas le même positionnement mécanique que dans la Kia K5, mais on fait 300 chevaux ici. La voiture est lourde quand même. Elle en impose. Elle est quand même assez grosse. Et c'est surprenant de voir Genesis, débarquer avec une nouvelle berline dans ce segment-là, alors que Acura RLX est disparu, Lexus GS est disparu, Infiniti Q70 est disparu. Il y a eu beaucoup de constructeurs qui abandonnent carrément le segment. Lincoln l'a aussi abandonné. Et moi, tout de suite, ce qui m'est passé en tête en conduisant cette voiture-là, ben voilà ce que Lincoln et Cadillac auraient dû nous servir depuis tant d'années pour riposter avec une personnalité unique aux sacro-saintes voitures allemandes qui dominent le segment. Alors, c'est une voiture aboutie, c'est une voiture avec un comportement exceptionnel. J'ai préféré la version en moteur 4 cylindres qu'avec le V6 qui fait 75 chevaux de plus. Pourquoi? Parce que...
Plus légère ou...
Ben voilà, l'équilibre des masses est nettement mieux avec le 4 cylindres. C'est vrai qu'on a moins de puissance, c'est vrai que la douceur d'accélération n'est pas la même, mais sinon, l'avantage du 4 cylindres, C'est qu'on a un équipement quand même assez complet. Au Canada, on ne s'est pas cassé la tête, là. On a une version à moteur 4 cylindres, une version à moteur 6 cylindres.
En même temps, ce ne sera pas un gros, gros volume de vente au Canada, là.
On sait que ce n'est pas un gros volume de vente. Il y a 10 000 $ d'écart entre les deux. Et honnêtement, bien qu'il y ait un peu plus d'équipement dans le cas de la V6, j'ai préféré le 4 cylindres parce que d'abord, les roues sont un peu moins grosses et ça cogne un peu moins dur. Deuxièmement, parce que le museau de la version moteur V6 est plus lourd et ça paraît. Donc, l'équilibre des masses est intéressant. Et à 66 000 $ pour la Genesis G80, un moteur 4 cylindres, tu as une voiture tellement complète, garantie 5 ans, service inclus pendant 5 ans, service à domicile, ce que tu voudras. Honnêtement, une voiture qui est bien construite, hyper luxueuse. Moi, j'ose croire que Genesis va réussir à aller chercher des parts de marché et convaincre des gens de peut-être revenir à la berline intermédiaire.
Ouf, parce que ça, c'est un gros mandat, là.
Ben, c'est un gros mandat, mais en même temps, tu sais, si tu ne veux pas acheter une voiture allemande, tu ne veux pas acheter une
Autrice, 50 choix, là.
Tu n'as plus 50 choix et... Pour moi, c'est la meilleure alternative qui existe en ce moment. En
Il faut
plus,
s'attendre à une certaine dépréciation, en revanche. Là.
Oui, sauf que en location, tu vois, le constructeur garantit un peu, offre une dépréciation qui, sur papier, est quand même raisonnable. Et comme c'est Genesis qui va contrôler le marché de ces voitures d'occasion, bien, ils ont peut-être plus de chances de ne pas chuter en valeur comme une G90 avec laquelle il n'y a rien à faire. Là.
On est donc, bien d'accord.
On est bien d'accord. Alors, j'ai bien hâte de voir. Puis, je veux dire, la qualité du produit est là. Elle parle. Il y a le service Genesis aussi qui vient avec. Ouais. Il y a tout ça, moi, qui m'a convaincu. C'est un produit qui me convainc davantage par rapport à la compétition que le GV70, qui, lui, a une compétition très, très, très large et qui a...
C'est pas gagné d'avance pour
non,
lui.
Non, c'est... Mais évidemment, on va vendre plus de GV70, le marché étant, là, ça, c'est sûr. Fait que, bien hâte de voir ce que ça va faire avec la G80, mais c'est une voiture que j'ai bien appréciée.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Germain, il y a un fléau que la technologie a apporté dans le monde de l'automobile, c'est celui des données informatiques à bord d'un véhicule et de l'accès aux diagnostics dans les véhicules de plus en plus complexes. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a Jean-François Champagne, le président de AIA Canada. Bonjour Jean-François.
Bienvenue parmi nous.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation.
Ah ben grand plaisir. Avant de se lancer dans le sujet, peut-être nous mentionner en quoi consiste l'AIA, qui est l'Association des industries d'automobiles du Canada.
Exactement. Ben, en fait, on représente tous les gens dans le domaine de l'après-marché. On dit souvent que c'est ce qui arrive après qu'une voiture a été vendue. Donc, on représente les gens qui fabriquent les pièces de remplacement, les grands réseaux de distribution de pièces, ainsi que ceux qui font des réparations, donc les ateliers indépendants, et également tous les gens qui sont inclus également dans l'industrie là, de la carrosserie. Donc, ça, c'est encore un grand secteur économique avec beaucoup de gens et une présence là, dans l'économie qui est très importante au Canada et au Québec.
Et on parle évidemment à l'échelle canadienne. Là.
Absolument. L'association, évidemment, est à travers le Canada, avec des divisions provinciales là, comme notre division du Québec également, oui.
Et vous, à titre de président, c'est quoi votre rôle précis?
Bien, moi, écoutez, je veux m'assurer qu'on continue à avoir une industrie qui grandit, qui est compétitive. Je fais beaucoup de relations gouvernementales, de représentations auprès des intervenants de l'industrie. Et puis, comme aujourd'hui, en fait, parler avec les gens pour qu'ils comprennent bien les enjeux là, du présent et du futur pour... la façon qu'on va faire l'entretien de nos véhicules dans le futur.
Bon, alors, les défis actuels de l'industrie de l'après-marché, c'est cette espèce de rivalité de plus en plus difficile qui s'installe par rapport aux constructeurs automobiles slash concessionnaires de véhicules neufs qui veulent monopoliser, j'oserais dire, l'entretien des véhicules du futur.
Effectivement, avec l'arrivée de la voiture connectée, donc il s'agit d'un véhicule qui va transmettre de l'information en temps réel, et on parle ici d'une très grande quantité d'informations. Ces véhicules-là sont déjà sur nos routes, Et nous, on estime que vers l'année 2022, ça va représenter 70 à 95 de tous les nouveaux véhicules neufs vendus au Canada qui vont être des voitures connectées.
Alors, quand vous dites connectées, donnez-nous des exemples.
Donc, simplement, c'est qu'il y a à bord du véhicule un transmetteur de communication cellulaire qui va faire en sorte que le véhicule constamment communique avec les serveurs du manufacturier automobile. Il va transmettre, bon, la performance du moteur, vos accélérations, peu importe, une grande variété d'informations qui, de notre point de vue, évidemment, inclut beaucoup d'informations reliées au diagnostic et la performance à l'entretien du véhicule.
OK.
On est loin de l'époque où une voiture dite technologique était équipée de vitres électriques et du système ABS, là.
Absolument. Puis, écoutez, pour ceux qui sont un peu plus techniques, vous savez, on a tous un port standardisé dans les véhicules, le fameux port OBD2.
Ouais.
Il était en fait le résultat là, de réglementation, entre autres en Californie. Et c'est un petit peu grâce à ce port de diagnostic-là que malgré les avances au niveau de la technologie, de l'électronique dans nos véhicules, on a continué, nous, pour les ateliers indépendants, d'être capables d'accéder à l'information nécessaire pour faire le diagnostic, la reprogrammation des véhicules. Mais encore une fois, avec la voiture connectée, on s'attend que ces ports-là deviennent un peu désuets et que là, on va plutôt utiliser les informations télématiques, c'est la façon qu'on les appelle, les informations communiquées de façon sans fil en temps réel. Et c'est là que je crois qu'on doit être conscient de ça, parce que pour la plupart des non-initiés, on ne comprend peut-être pas l'impact que ça va avoir là, sur nous.
Bon, avant de parler de ces impacts-là, on doit d'abord mentionner que la prise OBD2, donc la prise de diagnostic qu'on retrouve dans les véhicules depuis quoi, le milieu des années 90 à peu près?
Parce que sur ma voiture 1994, il y a une prise OBD1,5. Donc, il ne peut pas être lu par un lecteur OBD1 ni OBD2. Donc, oui, ça correspond à cette période-là.
C'est toi qui as acheté cette voiture-là, Germain.
Oui, exactement. Okay, et c'est moi qui ai fait acheter ce lecteur-là à mon mécanicien.
OK, excellent. Mais c'est ça. Donc, ces prises-là sont universelles et sont les mêmes pour l'ensemble des marques de voitures. Mais là, depuis 2018, il y a des constructeurs automobiles qui ont décidé de les modifier et de faire leur propre prise personnelle, ce qui a été un premier casse-tête pour les garagistes indépendants, là.
Absolument. Mais imaginez alors s'il n'y a plus de port de communication et on fait tout simplement accès aux informations du véhicule à travers un serveur centralisé.
À travers un nuage informatique, là.
Exactement. Alors, c'est une belle extension, une belle façon de voir les choses. C'est très, très similaire à ce qu'on a vécu dans notre vie avec nos cellulaires, nos appareils, nos ordinateurs. Donc, c'est la même chose. Et là, présentement, toutes ces informations-là sont la propriété des manufacturiers automobiles. Et c'est là le problème.
Donc, le propriétaire de sa voiture ne l'est donc plus totalement. C'est un peu ce que ça veut dire.
Exactement.
Bon.
Et donc, c'est effectivement à la base de nos revendications en disant, écoutez, vous avez acheté le véhicule, vous en êtes propriétaire, vous devriez également être le propriétaire et être en contrôle des informations qui sont générées par votre véhicule.
Avant de parler de ce que l'AIA souhaite faire, parlez-moi de ce qui est en train de se passer du côté américain avec une campagne d'information face à la clientèle pour ce problème-là spécifique.
Oui, alors, il y a deux choses peut-être qui est important de mentionner aux États-Unis. C'est un problème qu'on connaît depuis de nombreuses années, l'évolution, la croissance des problèmes liés à la télématique.
Ouais.
Donc, c'est pas nouveau. Évidemment, ça fait quelques années qu'on en parle. Nos partenaires américains, des associations sœurs à l'AIA aux États-Unis, nos contreparties, ont lancé une grande campagne, il y a de ça déjà près de 2 ans, qui s'appelle « Your Car, Your Data, Your Choice » ou « Votre auto, vos données, votre choix
».
Pour sensibiliser encore une fois le public, l'industrie, et aussi les législateurs sur les dynamiques et les problématiques liées à la voiture connectée, à la télématique.
Est-ce que c'est une problématique qui intéresse ou qui interpelle le consommateur ou ça lui passe peut-être un peu 6 pieds par-dessus la tête?
Écoutez, dans nos plus récentes études, on se rend compte que le consommateur ne comprend pas très bien.
Mm-hmm.
De toute façon, écoutez, lorsqu'on lui vend un véhicule connecté, on lui en parle très peu. C'est peut-être pas un grand sujet de conversation.
Ouais, pour ne pas dire pas du tout, là.
Ouais, c'est ça. C'est quelque part dans le document, là, qui est très, très long et qui a beaucoup de petits caractères.
Ouais.
Et lorsqu'on leur demande aux Canadiens, qui pensez-vous est propriétaire des informations de votre véhicule? Un tiers vont vous dire, ben, moi, je crois être propriétaire de mes informations. Et vous avez également un autre 25% qui vont vous dire, ben, je sais pas du tout. Alors, effectivement, Germain, les gens le savent pas, sont pas au courant, sont pas sensibiliser à ça.
La quantité de données, on peut penser à quoi? À des informations qui se retrouveraient sur notre téléphone cellulaire, à des informations personnelles? Parce que moi, je peux comprendre, évidemment, quel est l'objectif d'un constructeur d'avoir ces données-là en main, parce que ça va l'aider, évidemment, pour élaborer la vente de ses futurs véhicules. C'est un peu ça, l'idée de garder des données par rapport à un consommateur, là.
Absolument. Antoine, et je dis souvent, peut-être qu'on a un message un petit peu négatif, mais l'avenue de la voiture connectée va amener énormément de points positifs pour le constructeur, pour l'après-marché, pour l'utilisateur du véhicule, en autant qu'on ait, encore une fois, je pense, une balance là, dans le rapport de force.
Ouais.
Mais effectivement, ces informations-là, écoutez, c'est la performance du véhicule, comment qu'on augmente sa performance au niveau de la consommation d'essence, mais c'est également aussi, effectivement, combien vous pesez. Vous savez, il y a évidemment, pour le sac gonflable, il se doit d'avoir un sensor dans le véhicule qui va permettre de savoir le poids du passager pour être sûr que le déploiement du sac gonflable se fait. Donc, en théorie, votre manufacturier automobile est capable de déterminer le poids des gens du véhicule, de peut-être comprendre à travers la façon que vous conduisez, qui conduit. C'est à partir du GPS où vous êtes déposé vos enfants.
Ouais.
Donc, il y a énormément d'informations là qui... Effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qu'évidemment les manufacturiers automobiles aimeraient bien être capables de monétariser, de générer des nouveaux revenus.
Et ce qui est intéressant, c'est que si on extrapole, on pourrait par exemple dire le propriétaire de cette Infiniti QX50 est allé à 3 reprises le mois dernier chez Costco, s'est déplacé à 7 reprises au centre-ville de Montréal. On pourrait aller chercher des données aussi précises que ça et ensuite en faire un usage commercial sans même que le consommateur en soit conscient. Là. C'est un peu ça, là.
C'est un peu de ça. C'est sûr, de notre point de vue, c'est peut-être pas au Costco, mais c'est peut-être aller à un magasin .S,
ouais.
Un Autopro, un Canadian Tire, et là, être capable de dire, bon, est-ce que ça cause problème au niveau du choix du consommateur,
ouais,
de faire réparer, entretenir son véhicule par le réparateur de leur choix?
On a vu que ça a été problématique dans d'autres secteurs que l'automobile, mais est-ce qu'on doit craindre une fuite de ces données-là?
Oui, ben il y a peut-être ça aussi. C'est sûr que nous, du côté de l'après-marché, nous avons travaillé très fort à développer des standards et des technologies qui vont permettre l'accès direct à ces informations-là de façon sécuritaire. Donc, faut en être très conscient. Évidemment, on est de plus en plus dans la cybersécurité, dans l'informatique, ouais. Donc c'est important de se mettre à niveau. C'est sûr qu'il y a toujours des craintes pour établir des systèmes et des technologies qui vont permettre de nous protéger. Et notre point de vue, et que des plateformes standardisées offrent de meilleures chances de protection que des systèmes propriétaires ou particuliers à certains manufacturiers. Je parle toujours, moi, en fait, de notre fameux furteur Internet pour accéder à notre compte bancaire. On utilise des standards établis au niveau de la communication sécurisée sur Internet. C'est pour ça qu'on est capable de faire notre bancaire en ligne de façon sécuritaire. Et c'est pas parce que la Banque de Montréal ou les Caisses Desjardins ont créé leur propre système. Non, ils ont décidé d'adopter des standards et c'est ce qu'on, en fait, nous
on préconise.
Ouais,
ouais,
oui,
OK. Bon, là, il y a, est-ce qu'elle est capable, est-ce qu'elle est en mesure de mettre son poing sur la table pour convaincre des constructeurs automobiles de plier face à ces décisions-là? Parce que dans le fond, un constructeur automobile, il n'a pas vraiment intérêt, lui, à partager ses informations. Pourquoi il accepterait de le faire?
Exactement. Donc, à l'instant, je crois que l'exemple, on parlait plutôt du port OBD.
Ouais.
Ça prend une réglementation. Donc, oui, on met notre poing sur la table, pas devant les constructeurs automobiles, mais devant les gouvernements.
Ah bon, OK.
On a besoin d'une réglementation, on a besoin de cadres législatifs qui vont forcer la main un peu aux manufacturiers automobiles. Vous savez, ils sont très compétitifs, puis ils veulent créer des systèmes qui leur donnent un avantage, un petit peu d'exclusivité.
Ben oui.
Et donc, une fois qu'ils sont forcés par la réglementation, la législation, ben ils vont adopter ces plateformes standardisées. Mais c'est certain qu'ils vont pas le faire de façon volontaire. Il faut appliquer la pression sur le gouvernement. Là, il y a le fait. Comme nos partenaires américains et comme nos autres partenaires d'ailleurs dans le monde, là, que ce soit en Europe, en Australie, en Amérique du Sud et autres.
Parce qu'on comprend évidemment que s'il n'y a rien qui se fait à ce niveau-là, que les constructeurs automobiles finissent par monopoliser le marché, et ça veut dire des dizaines de milliers de pertes d'emplois juste au Canada, et on ne parle pas des États-Unis, parce que les garagistes indépendants n'auraient plus de travail, parce que les constructeurs, des fabricants de pièces indépendantes n'en auraient plus non plus. C'est difficile d'imaginer ça aujourd'hui en 2020.
Ce serait une explosion des coûts aussi pour le consommateur là, à prévoir.
Ben oui, parce que les concessionnaires de véhicules...
Le taux horaire d'un concessionnaire puis le taux horaire d'un garagiste indépendant, là, c'est plate à dire, mais il y a souvent un grand écart entre les deux. Là.
Sans compter le coût des pièces.
Qui n'est pas le même, effectivement.
Et corrigez-moi si je me trompe, Jean-François, mais un concessionnaire automobile n'a jamais mis d'effort pour développer le marché d'un entretien de véhicules passé les garanties, là.
Bien, c'est certain que la motivation d'un manufacturier n'est pas très grande lorsque l'espérance de vie du véhicule, effectivement, autour du 5 à 7 ans, l'intérêt se perd parce que, bon, l'intérêt du manufacturier, à ce moment-là, c'est de vous vendre un nouveau véhicule neuf.
Oui, exactement.
Nous, dans l'après-marché, on a fait un travail exceptionnel pour trouver des façons novatrices de garder ces véhicules-là en bon état de marche, de façon sécuritaire. Et là, bien, c'est sûr qu'on va devoir continuer à accéder à l'information du véhicule. Alors, le meilleur exemple que je dis toujours, je vais peut-être pouvoir mettre une pièce de remplacement sur un véhicule d'une quinzaine d'années dans le futur.
Ouais.
Mais si j'ai une voiture connectée et que je n'ai pas accès à l'information, si le serveur central dit, bien, excusez, mais cette année ou cette version de ce véhicule-là n'est plus supportée, bien, la voiture ne part pas, là.
La voiture ne part pas. Puis là, vous parlez d'un véhicule de 15 ans, mais on pourrait parler d'un véhicule de 8-10 ans seulement, là.
Donc, il y aurait un coût écologique en plus associé à ce virage-là, finalement. Là.
Mais écoutez ce que nous, on dit au gouvernement. Il y a des grandes politiques au niveau de l'électrification des véhicules.
Ouais.
Je crois qu'on soit tous conscients de notre capacité d'aider, évidemment, là, au niveau de tous les problèmes de l'environnement et des changements climatiques. On dit toujours, attention, une voiture électrique est très, très souvent une voiture connectée.
Ouais.
Alors, si on veut effectivement réaliser le bénéfice, il faut s'assurer qu'on va garder ce véhicule-là aussi longtemps qu'on garde nos véhicules aujourd'hui, 12, 13, 14 ans. Écoutez, l'âge moyen d'un véhicule au Canada présentement, c'est 10 ans. Mais si on n'est pas capable d'en faire le diagnostic, la reprogrammation et l'entretien sécuritaire dans le futur, on va avoir une tendance, comme on le fait avec nos cellulaires, comme on le fait avec nos électroménagers, à les garder quelques années, puis les mettre au rebut, puis en acheter d'autres.
Ça va être du consommer-jeter plus que jamais. Là. En dépit du fait que les produits sont de qualité supérieure à ce qu'ils ont jamais été. Là.
Absolument. Puis on parlait tantôt des coûts élevés au niveau de l'entretien, mais on parle aussi des désagréments que ça va amener aux consommateurs. Vous savez, la grande majorité des Canadiens décident d'aller chez les réparateurs indépendants. Donc, c'est nos ateliers indépendants qui font la majorité de l'entretien et de réparation des véhicules.
Oui.
Et on est capable de le faire partout, que ce soit à Matane, que ce soit au Lac-Saint-Jean. Peu importe le type de véhicule que vous conduisez, on a développé les expertises. Mais si vous devez toujours vous diriger vers le concessionnaire, le manufacturier qui a fabriqué votre véhicule, là, c'est peut-être pas selon l'horaire ou la flexibilité que vous voulez. On a parlé effectivement des coûts plus élevés. Ça va réduire le choix du consommateur.
Puis sans compter que les gens ont des garagistes de confiance avec qui ils ont une relation de longue date, alors que chez un concessionnaire, ben veut pas, tu risques d'être appelé à devenir un numéro plus que jamais, là.
Oui. Et puis, écoutez, nous, ce qu'on préconise, encore une fois, c'est des plateformes ouvertes. Si le choix du consommateur est de retourner chez le concessionnaire, bien, c'est parfait.
Ouais.
Mais peut-être que le concessionnaire GM peut maintenant faire l'entretien aussi d'un véhicule Nissan.
Et ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que le concessionnaire, GM, est-ce que le concessionnaire comme tel, lui, est intéressé à cette monopolisation-là? Parce que s'il fait l'entretien de véhicules d'autres marques, s'il vend des véhicules d'occasion d'autres marques,
ce qui est le cas de la plupart des concessionnaires, là.
Ben, est-ce qu'il aurait accès, lui, à ces informations-là? Il y a ça aussi, là.
Mais c'est certain. Puis écoutez, je comprends la position délicate des concessionnaires, puisqu'ils sont très, très, très liés, évidemment, aux constructeurs de véhicules. Donc, je pense qu'on était peut-être dans une situation un petit peu difficile, mais j'ose croire. Puis on a vu, il y a eu des précédents dans le passé, entre autres sur les grandes batailles du droit à la réparation aux États-Unis.
Ouais.
Certains groupes de concessionnaires se sont ralliés au concept en disant on veut des plateformes plus ouvertes, on veut de la compétition et on veut, en tant que concessionnaire, être capable de faire l'entretien de d'autres marques et autres modèles de la même façon que les ateliers indépendants le font. Donc, effectivement, c'est une situation un peu plus, je dirais, délicate pour les concessionnaires.
Bien sûr. Moi, je me mets juste dans le pot. J'ai plein de concessionnaires en tête qui ont pignon sur rue, mais qui vivent principalement avec des véhicules d'occasion. Là, pour ne pas en nommer des concessionnaires Mitsubishi qui vont vendre deux fois plus de véhicules usagés que de véhicules neufs d'autres marques, eux veulent pouvoir avoir accès à une information comme celle-là, c'est clair. Bon, maintenant, vos actions par rapport au gouvernement, quelles sont-elles?
Alors, écoutez, je dis souvent aux gens, écoutez, le moment de réaliser, de se mobiliser, de se lever est maintenant, parce que le ministre de l'Industrie, le ministre Bain, a présenté à la Chambre des communes la semaine dernière la fameuse loi sur la réforme de la protection de l'information personnelle, et également de l'introduction de la charte numérique pour le Canada.
Donc,
des mots même du ministre, une réforme de la législation qui assure un plus grand contrôle des informations pour les Canadiens. Donc, de s'assurer que les Canadiens ont un meilleur contrôle sur leur information. Ça peut s'appliquer évidemment à votre téléphone cellulaire, votre compte Facebook, mais ça s'applique définitivement à votre voiture connectée également. Et nos actions, c'est de s'assurer que le ministre, de façon générale, évidemment, il y a la loi, mais de façon particulière, se penche sur le cas typique de la voiture connectée et s'assure que dans cette réforme-là, bien, il y a des réglementations claires qui vont venir dire aux manufacturiers automobiles, vous devez adopter des plateformes standardisées, vous devez permettre aux consommateurs de partager ces informations-là directement avec l'atelier indépendant de leur choix, et que l'atelier indépendant soit capable d'accéder à ces informations-là de façon directe dans le véhicule sans devoir passer par le constructeur automobile.
Maintenant, j'imagine que M. Baines doit aussi avoir de la pression de la part des manufacturiers qui ont un lobbying très fort ici au Canada. Là, je pense aux trois grands constructeurs américains, à Honda et à Toyota, qui ont des usines établies ici au Canada.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez su les annonces récentes pour l'usine Ford à Oakville, où le gouvernement ontarien fédéral a investi près d'un milliard de dollars pour aider à faire la mise à niveau de l'usine. Donc, il y a beaucoup d'emplois d'impliqués là-dedans.
Bien sûr.
Et oui, ça reste un lobby très fort auprès des gouvernements. Donc, c'est sûr que on se doit de se mobiliser parce qu'effectivement...
Et ce qui est ironique, si vous me permettez, c'est que M. Baines a déjà travaillé chez Ford
comme quoi, tout est
du côté
dans tout,
de la finance.
Hein?
Alors, il y a peut-être eu un petit coup de pouce de ce côté-là. Là.
C'est certain que oui, ce lobby-là continue d'être très grand. Écoutez, nous, à l'OIA, on préconise toujours un secteur de l'automobile qui est fort et grand. On veut des manufactures automobiles au Canada, mais c'est certain que leur influence, parfois, malheureusement, fait en sorte qu'il faut se débattre un peu plus fort.
Donc, vous avez souligné votre intention d'intégrer, dans le fond, la possibilité d'un libre partage de l'information sur le plan automobile. Est-ce que ça a été officiellement reçu ou est-ce qu'on est à l'étape d'étude actuellement?
Donc, la loi vient d'être présentée. C'est à l'étape de la réglementation. La loi doit être adoptée en premier. Il y aura évidemment des réformes de réglementation. Et c'est à ce niveau-là que la bataille va se faire. C'est sûr que nous, ça fait depuis 2016 qu'on fait des représentations sur l'impact de la télématique. Donc, ils sont très au courant et on continue de mettre la pression. Donc, je vous dirais que dans la première partie de 2021, c'est là que vraiment que ça va se décider quelle va être l'étendue de la réglementation. Ça reste à voir. Puis c'est sûr que On regarde aussi du côté américain, parce qu'il ne faut pas se le cacher, nos voitures connectées, bien, je vais vouloir faire l'entretien de mon véhicule lorsque je vais en Floride pour l'hiver. Et si j'ai quelqu'un des États-Unis qui vient visiter à Montréal, bien, il faut que je sois capable également de faire l'entretien, les réparations du véhicule.
Oui.
Donc, c'est très intégré, c'est tout ça, là, cette histoire-là.
Bon, et en terminant, nous, en tant que consommateurs, est-ce qu'on peut souligner de quelque façon que ce soit notre intérêt à ce que ce partage d'informations-là puisse se faire?
Absolument. Écoutez, c'est le moment pour l'ensemble des intervenants de se mobiliser. Nous avons une pétition présentement en ligne. Vous pouvez la rejoindre sur change.org, donc change.org, barre latérale, pétition canadienne. Et c'est là que vous pouvez signer pour supporter nos efforts. Et ça va envoyer un courriel au ministre Bain pour lui dire, écoutez, assurez-vous qu'on ait le contrôle des informations de nos véhicules. Alors, c'est une invitation à tous, aux consommateurs, à l'industrie, de se mobiliser et de s'assurer que cette pétition-là est complétée pour nous aider dans nos efforts auprès du gouvernement fédéral.
Très intéressant, M. Champagne. Merci d'avoir pris le temps de nous parler en espérant que ça porte fruit parce qu'effectivement, c'est important pour l'avenir de l'automobile, pour tous ceux qui en conduisent et pour tous ceux qui en vivent.
On va aller prendre 2 minutes pour aller lire la pétition. Merci, M. Champagne.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, cette semaine, tu as lancé une question dans l'univers et la question était la suivante. Quelle est votre définition d'un véhicule branché? Et tu as tenté d'y répondre.
Ben, en fait, c'est parce que qui dit véhicule branché au propre comme au figuré, dit véhicule électrique de luxe, parce qu'il y en a une panoplie qui débarque sur le marché cette année. Pensez à la Ford Mustang Mach-E, Volvo XC40 Recharge, les Polestar, il y en a énormément. Mais en même temps, il y a une espèce de contradiction, parce que en partageant une publication sur ma page Facebook, j'ai eu 850 000 visionnements sur une vidéo du Cadillac Escalade qui, on s'entend, est un véhicule on ne peut plus traditionnel dans son approche. Là. Du gros bling-bling à l'américaine, avec une technologie, un comportement, tout ce que tu voudras.
Mais une formule qui pique encore la curiosité des gens.
Qui pique la curiosité des gens, mais ce qui a été très drôle dans le cas de ma publication, c'est que plus de 50% des gens qui l'ont vu proviennent d'Europe. Et d'Afrique même.
Un véhicule exotique pour eux.
Ben voilà, c'est le American Dreaming. C'est le rêve américain, ce véhicule-là. On le voit au cinéma, on le voit partout à la télévision. Et écoute, il y a des Français qui m'ont écrit pour savoir comment il fallait s'y prendre pour exporter les véhicules du Canada, les envoyer en France. Et il y a même un Camerounais qui m'a offert de me payer pour l'aider à exporter un véhicule
chez lui.
Ah, quand
même, hein? Il était motivé, là.
Tu sais, ils veulent avoir ces machines-là. Ils ne rêvent pas de Range Rover, ils ne rêvent pas de Ferrari, de Lamborghini, de Porsche. Ils rêvent de Cadillac Escalade et de Lincoln Navigator. C'est ce qu'ils veulent avoir.
Avec un drapeau américain
absolument.
Sur la valise, là.
Et je pense que si on pouvait faire un toit de vinyle à l'effigie de Donald Trump pour pouvoir mettre sur le camion, ça serait encore mieux.
Bon, moi, je ne prendrais pas cette option.
Non, moi non plus, mais on s'entend, mais tu comprends. Oui. C'est vraiment un rêve américain. C'est très, très, très drôle de voir ça. En même temps, c'est vrai que le camion est impressionnant, mais on s'entend que c'est à contre-courant. Là.
Oui.
Puis je veux dire, là, je vous parle du Cadillac Escalade parce que la publication était en ce sens-là. Mais imaginez, tu sais, on parle de véhicules électriques, on parle de véhicules de luxe, du Rivian, du Hummer électrique, oui. de ces monstres-là américains, mais qui sont tous électriques. Et pendant ce temps, tu as un constructeur qui s'appelle Chrysler.
Ben oui, qui nous arrive avec le Ram TRX, le Durango L4. Bon, ça
le
finit
Jeep
plus.
À le moteur Jeep 392.
V8. On parle beaucoup moins du 4XE, par exemple.
Oui, 4XE que je devais essayer dans quelques semaines et finalement, le lancement a été reporté.
Donc, on met des V8 toujours plus gros et toujours dans des nouveaux endroits.
C'est hallucinant.
Ouais.
Alors, j'ai
Mais ça marche.
Mais ça marche. Puis j'ai hâte de voir comment Chrysler va s'ajuster rapidement à ça. Oui, le Jeep va avoir une version électrifiée, la fourgonnette Chrysler, bon, mais on est loin de l'électrification de plusieurs modèles GM ou Ford. Alors, ça, il va falloir travailler. Mais toujours est-il que j'ai trouvé ça drôle comme paradoxe de à la fois voir que les constructeurs moussent leur souci environnemental avec des véhicules électriques et des prototypes multiples, mais qu'en même temps, ce qu'on veut vendre, c'est un Cadillac Escalade, un Lincoln Navigator, un Ford F-150, parce que c'est ce qui est payant et c'est ce qui va permettre aux constructeurs de justement prendre un virage électrique et de financer ces véhicules-là qui, pour eux, sont juste un peu moins payants que des F-150 et des Silverado.
Le coût de développement est un petit peu plus élevé.
C'est ça. Alors voilà. Sur ce, bon week-end à tout le monde.
Merci, bon week-end.
Cube Radio.